chanteur, musicien, compositeur, interprète. Il a inventé le hip-hop yiddish et il l'incarne littéralement. Multi-instrumentiste, piano, accordéon, il est aussi marionnettiste, magicien, dessinateur, réalisateur, photographe. Son univers est festif, drôle et débordant d'idées. Armé de ses multiples talents, Sokold célèbre les richesses de la culture yiddish, auquel il offre une seconde jeunesse en la slamant, la rappant, la modernisant. Il questionne le monde actuel en yiddish. Il est canadien anglophone, mais le français ne lui fait pas peur. Sokold, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Academ.
Merci à vous. Bonjour.
Ça va ?
Nichler.
Nichler. Yeah. Ah, bientôt, on fera des interviews en yiddish oui. à Academ. Vous l'avez apprise où, vous, le yiddish ?
Honnêtement, je ne parle pas vraiment, vraiment couramment le yiddish, mais je chante beaucoup en yiddish. Alors, j'apprends les chansons. Mm-hmm. Et pour vraiment présenter les chansons, il faut comprendre le texte. Alors, j'ai beaucoup bossé avec des dictionnaires, genre avec des anciennes paroles, des anciens lyriques. Et maintenant, je comprends beaucoup.
Pas avec un professeur?
Non, jamais avec un professeur. Mais comme enfant, j'ai appris hébreu. Mais comme les Juifs en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais chez moi, on apprend hébreu pour lire et pour chanter pour le bar mitzvah.
Oui, pareil ici.
Et on a une petite éducation dans l'hébreu moderne pour comprendre quelques mots, blablabla, mais jamais vraiment la langue. C'était juste pour lire... Pour
énacter
le parasha.
Okay? La parasha de la bar mitzvah.
Alors, quand je suis tombé sur Yiddish, avec une histoire, peut-être on va parler de cette histoire.
Bien sûr.
De trouver les anciens disques, vraiment, en cherchant pour les samples, pour faire le hip-hop, pour faire le sampling. Là, je suis tombé sur cette langue. Je n'ai jamais vraiment entendu le Yiddish comme enfant chez moi.
D'accord.
Mes parents, pas du tout. Alors... Mais quand je suis tombé sur ça, j'ai vu que c'est écrit en hébreu. Donc, je peux lire. Et je peux lire une langue et comprendre plus que l'hébreu. Quand tu lis hébreu, c'est une ancienne langue. C'est rien avec les langues romances.
Oui.
Mais quand vous lisez yiddish, c'est un peu...
C'est allemand.
Alors, il y a quelques mots. Oh, OK. Alors, ça m'a donné contact avec une culture un peu cachée et perdue et oubliée. Mais j'ai eu un contact direct avec la langue.
Et donc, dans la famille, il n'y avait pas de yiddish. C'était quoi le judaïsme dans la famille, chez vos parents et vos grands-parents, même sur deux générations?
J'ai vécu mon enfance à Québec, près de Ottawa, mais sur le côté québécois, la province de Québec, dans une petite ville qui s'appelle Chelsea. Et là, on était vraiment la seule famille juive dans la ville, village.
Mais vous avez fait votre bar mitzvah.
Oui, parce que j'ai étudié à Ottawa, la grande ville. Mais c'est un trajet de 45 minutes pour arriver à la synagogue. Et j'ai eu une enfance avec beaucoup de juiverie, des chansons, bien sûr les fêtes, la bouffe juive de ma mère et synagogue, you know, pas mal régulièrement.
Juste pour Kippour.
Voilà, pour les high holidays, pour les grandes fêtes. Mais je n'étais jamais vraiment convaincu par le côté religieux, mais j'ai toujours beaucoup aimé la culture. Et d'être différent, ce n'était pas un truc mauvais. À ce point-là, dans les années 80-90, c'était à Canada un esprit un peu libre. Tout le monde peut être n'importe qui. C'est un grand mélange, c'est une expérience. Des cultures différentes, les langues différentes, ça peut marcher. Et voilà, mes grands-parents viennent de l'Europe de l'Est. Un grand-père de Ukraine, un grand-père de Roumanie, une grand-mère de l'Austro-Hungarie,
l'Empire austro-hongrois.
Merci. Et ils sont tous venus avant la Deuxième Guerre.
Oui, avant la Deuxième Guerre.
Et même quelques grands-parents avant la Première Guerre mondiale. Ils ont été pas mal chanceux et ils ont choisi, je ne sais pas pourquoi ou comment, ils ont tombé sur Canada et tombé sur une ville qui s'appelle Winnipeg. Et c'est dans l'ouest du Canada où il y avait une population pas mal grande des Juifs. Dans cette période-là, je pense que c'était un truc politique
du
gouvernement de mettre le maître du monde là-bas. Mais c'était vraiment... je pense que c'était une vie un peu dure, même à Canada, mais bien sûr moins dure qu'en Ukraine ou en Roumanie. Et probablement, ils ont parlé yiddish, you know? Et je sais bien qu'ils ont parlé yiddish, mais je n'ai pas... du tout rencontrer un côté, le grand-père, les parents de ma mère, ils sont morts pas mal jeunes. Et je connais un tout petit peu un grand-père, mais aussi il est mort pas mal tôt. Et l'autre est la grand-mère. Alors, et elle a parlé quelques mots en yiddish, mais c'était pas un truc pour nous. Et c'était beaucoup... plus tard, dans mon adolescence peut-être, où je suis tombé particulièrement sur la musique yiddish, comme musicien.
C'est ça, mais vous étiez rappeur à ce moment-là. Vous faisiez du hip-hop.
C'est commencé là. Mais même avant ça, j'ai entendu quelques petits trucs des groupes de la klezmer. La revivification de cette culture yiddish, revivification, les klezmatiques.
Revival, oui.
Les klezmatics, John Zorn, la culture radicale juive de John Zorn.
Radicale jewish culture, oui, de John Zorn.
Et aussi
vous êtes tombé là-dessus dans un petit village comme...
C'était avant le Internet, OK? Alors, c'était juste d'être...
connecté, d'être dans les réseaux.
Juste d'être intéressé par la musique. Et c'était un grand moment pour la musique world.
Oui.
World music dans
fin
les
années
90, you know. Alors, si vous checkez les magazines, music reviews and stuff.
Oui, les journaux spécialisés.
Voilà, et la musique yiddish a fait partie de cette world music, cette explosion d'écouter la musique pas pop, pas jazz, pas classique, mais la musique un peu culturelle, la musique brésilienne. J'ai beaucoup aimé une label de David Byrne, des Talking Heads, Luaka Bop, où il a ressorti les albums brésiliens.
Il a réédité des albums.
Luaka Bop, ça c'est magnifique. Ou même Tom Waits.
Oui.
Il a utilisé un peu des sons Russian music, stuff like that. Aussi, mes parents ont été, mon père était diplomate avant que j'étais né. Alors, ils ont été posté en Moscou, les années 60, imaginez.
Okay.
Alors, ils ont beaucoup de disques de la musique russe chez nous. Et après ça, ils ont été en Chili en 73.
Ah, en plein.
C'est chaud.
Bah oui.
Si vous êtes intéressé, check le nom de mon père, Mark Dolgan, avec un C, M-A-R-C, parce qu'il a fait partie d'une grande aventure avec les dissidents chiliens pour faire sortir, pour he saved people. Il a sauvé,
beaucoup
de gens.
Au Chili, à cette époque.
Voilà, parce que l'ambassadeur n'était pas là, il était le premier secrétaire et il a caché beaucoup de monde chez lui et dans l'ambassade. Voilà, ça c'est une autre histoire. Mais aussi, ils ont fait collectionner la musique du Chili et de l'Amérique du Sud. Alors, chez moi, comme enfant, ça fait partie de mon enfance, d'entendre les musiques qui viennent des différents mondes. Aussi, un ou deux disques de la musique juive, la musique yiddish.
Et c'était quoi ce disque?
C'est Théodore Bickel, l'artiste Théodore Bickel. Est-ce que tu as rencontré Théodore Bickel?
Non, jamais.
Jamais? Oh, c'est dommage, parce qu'il était actif dans le monde de la revivification du yiddish. Il était le symbole de...
Ouais.
Il était formidable. J'ai travaillé avec lui pas mal. Et ça, c'est vraiment le seul disque que j'ai entendu comme enfant avec la musique yiddish. C'était Théodore Bickel. Ces disques ont fait partie des disques des juifs, what's the word, like assimilés.
Oui.
En Amérique du Nord, les juifs ont arrêté de parler yiddish, ils ont arrêté d'écouter cette musique et d'écouter les films yiddish. Mais il y avait quelques artistes qui ont resté, je ne sais pas pourquoi. Et Théodore Bickel était un de ces artistes. Voilà. Et aussi, j'ai entendu un disque de klezmatique pas mal tôt dans cette histoire.
Tôt dans votre vie.
Oui.
Mais vous étiez musicien, vous avez appris la musique enfant.
Vous
avez une éducation artistique parce que...
C'était une éducation de piano comme enfant.
Oui.
Juste comme ça.
Oui.
Comme tous les enfants des mères juives, beaucoup des
comme mon fils.
Toi aussi, voilà.
Il est au piano.
Et j'étais forcé,
oui.
J'étais bribé.
Oui.
C'était la guerre.
Bon, ça va si ça donne un musicien comme vous êtes.
Bien sûr, I had talent.
Vous aviez
so
du talent.
So she forced me, she kept me going, et j'ai commencé avec le classique, juste le piano, et éventuellement. J'ai eu des leçons dans l'improvisation, un tout petit peu, le jazz. Et j'ai commencé de jouer dans les groupes à Ottawa, à 15 ans, de jouer dans les groupes un peu étranges, dans un groupe gospel. J'étais le seul blanc dans un groupe gospel. Dans ce groupe, j'ai commencé de bosser avec le guitariste dans son studio. Avant les ordinateurs, c'était un peu... plus compliqué de faire ça chez toi, de faire la musique, de faire la production chez toi. Mais lui, il a un petit home studio, mais avant les ordinateurs, donc les machines de drum et le cassette, you know?
Ouais, ouais.
Et c'était ennuyant et long de faire les trucs, mais c'est là où j'ai commencé de penser à la musique comme ça, et de produire ma propre musique.
De se dire, mais ça
musique.
M'intéresse, j'ai envie de faire moi aussi ce que je...
Voilà.
Et tout de suite, c'est devenu quoi? Du hip-hop? Ou c'est devenu du hip-hop yiddish très vite?
OK, j'ai joué dans ces groupes un peu étranges. J'ai fait des connexions, j'ai écouté la musique, les musiques différentes, des différentes cultures. Et là, c'était école secondaire. Et je suis tombé... Ma musique favorite, c'était funk.
Okay.
C'était le funk des
James
années
Brown.
70 de James Brown et les JBs. OK?
Oui.
Et j'ai eu une cassette d'un ami de mon frère plus âgé de JBs, The Best of the JBs. Et ça m'a changé la vie. C'est devenu ma musique favorite. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai beaucoup aimé le funk. Et un jour... je me souviens bien, dans un bus pour école, quelqu'un m'a fait écouter quelque chose sur une Walkman.
Walkman jaune, CD, you know? Ou
non, non, cassette avant
cassette,
CD.
Avant
voilà,
CD.
Je suis vieux
oui.
quand même, OK. OK. Sony Walkman. Oh,
oui,
j'adore.
Oui, très bien, très bien.
I love that thing.
Je suis sûre que vous en avez encore un à la maison.
Oui.
Bah oui.
Il m'a fait écouter quelque chose. C'était Snoop Doggy Dogg.
OK.
OK. Et Snoop Doggy Dogg, c'était un son familier. C'était le son funk, mais c'était mélangé avec des nouvelles sons. Et il parle d'aujourd'hui, il parle des politiques, il fait le commentaire social. avec une flow dans sa voix, dans sa poésie, très intéressant, et une voix, et des... mais c'est la musique funk.
Oui.
C'est même exactement la musique funk. C'est pris, ils ont pris les mêmes...
Les samples.
Les samples, les sons de Funkadelic, de Parliament, de James Brown. Et je me suis dit, ça c'est pas mal. C'est quoi ça? Ça c'est le rap, ça c'est hip-hop. OK, cool. Le Beastie Boys, Ice Cube, Dr. Dre, et finalement, pas finalement, mais Tribe Called Quest, Wu-Tang Clan. Et c'était vraiment un âge doré pour le rap, le hip-hop. C'était vraiment fait à la main. C'était hors de la mainstream. C'était quelque chose un peu caché. C'était pas populaire encore. Pas globalement populaire. Mm-hmm. Maintenant, hip-hop, rap, c'est...
La première musique au monde.
La première musique. Oui. C'est toute la musique et le hip-hop, rap. Le rock and roll, c'est avec un beat.
Oui.
Le pop, c'est tout mélangé avec les ordinateurs et avec les grands tracks rythmiques. Et, alors, c'est devenu le son de tout le monde. Et it was taken par toutes les cultures dans le monde. Par les cultures brésiliennes ou en Afrique, ou les Romas, les Gitanes, ils ont pris l'idée de hip-hop, de prendre leur musique et de mélanger avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles sons. Mais à ce point-là, c'était les gens qui ont aimé le hip-hop, le rap, ils sont...
Oui, c'était un petit groupe de gens.
Subculture, subculture, je ne sais pas.
C'est de la subculture qui a quand même fini par envahir
la musique. Envahir,
oui. Le monde, quoi. Oui.
C'était pas mal tôt que j'ai vu, OK, j'aime cette musique, cette hip-hop, cette rap. Je peux faire ça. C'est dans les mains des gens normaux. Ça vient de la rue. Ça vient des gens qui n'en ont rien. Mais ils prennent ce qu'il faut pour s'exprimer et pour dire leur histoire personnelle, très culturelle, honnête. You gotta keep it real, you know?
Sois toi-même, quoi. Be yourself.
Be yourself and represent. Représenter ton histoire, tes ancêtres, ta culture. Amène ta culture... pour aujourd'hui. So then, je veux participer en ça. Je me suis dit, OK, je peux faire ça. Même je suis une anglophone, anglais, white, blanc, québécois, juif, dans un petit village. Mais j'ai entendu cette musique qui vient de la rue américaine, africaine-américaine. Et je me suis dit, je peux faire ça. C'est pour le monde. Alors, j'ai commencé de chercher pour les bons sons, pour les sons différents, les sons qui viennent de la collection de musique de mes parents, de mes frères. Et alors, j'ai commencé de faire sampler Théodore Bickel ou d'essayer de rapper un peu en hébreu. Une de mes premières chansons, c'était Jew Funk. Ça s'appelle The Jew Funk.
D'entrée.
Oui. Like, vraiment, un des premiers raps que j'ai fait, c'était The Jew Funk, où j'ai rappé un peu en hébreu et blablabla. Et ça m'a donné une voix dans la culture hip-hop, un peu plus honnête. Pour moi, je peux pas... I couldn't pretend to be a guy from the American inner city, African-American inner city. Mais, OK, après un bout de temps, J'ai quitté la maison pour bouger, pour vivre à Montréal, dans la grande ville. C'est à peine 2 heures de Ottawa, Montréal, pour être étudiant à McGill, pour philosophie, pour littérature, genre.
Ah.
Mais là, dans la grande ville, j'étais pas le seul juif dans la ville, village encore. Montréal a beaucoup de Juifs.
Bien sûr.
Et j'étais en train d'essayer de trouver les anciens disques pour faire le hip-hop. Parce qu'au début, c'était pas avec les samples, c'était juste avec les machines de drum, avec les synthétiseurs. Mais après, au bout de temps, je me suis dit, comment est-ce qu'il fait le son de cette musique de Wu-Tang Clan, The RZA. Comment ça, les sons avec beaucoup de texture, avec beaucoup de bruit dedans.
Ouais, ouais, ouais.
Parce, c'est parce que il prend les anciens sons,
absolument,
vraiment digitalement, oui, numériquement.
Oui.
Il prend un ancien son, tu trouves un petit moment dans un ancien disque.
Tu prends la boucle.
Et tu prends ça. Tu prends pas, c'est pas un instrument, c'est le son enregistré en 1953. Parce que seulement à Montréal, j'ai commencé de vraiment trouver la musique yiddish. Dans les armées de salut, mais vraiment jetées dans les poubelles, dans les sous-sols des synagogues, dans in the garbage. C'était oublié, mais c'était par hasard, juste looking at the covers,
ouais,
les couvertures des disques,
ouais,
intéressant. À ce point-là, c'était l'ère des disques compacts.
Oui.
Et le disque compact, ça coûte 30 piastres chaque, oui, OK? Alors, tu ne peux pas vraiment juste essayer n'importe quoi. C'est cher.
Oui.
50 dollars, 20 piastres, OK. Pour un disque vinyle, dans la poubelle, c'est 25 sous.
D'accord.
Alors, tu checkes le cover, c'est quoi ça?
Okay. Ouais, la pochette est bien, je prends.
Voilà.
25 centimes.
Ou le nom est intéressant. Okay,
25 cents.
Whatever, you can just try. C'est presque gratuit.
Et là?
Et là, je suis tombé sur quelque chose comme Aaron Lebedev chante les grands tubes du théâtre yiddish. OK, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de Aaron Lebedev. C'était avant l'Internet. Il n'y a pas vraiment de communauté virtuelle pour ça, du tout. C'est... OK, Aaron Lebedev, Moshe Oysher, Dave Terrace, Abe Elstein. La musique du théâtre yiddish, la musique des chassidim, des nigunim, des disques, des chansons des chassidim. Le Belzer Hasidim, le Mooncatch, Lubavitch, OK, c'est quoi ça? Intéressant. La musique cantoriale de la synagogue, Yossel Rosenblatt,
Pierre Pinchik.
Pierre Pinchik, vous connaissez?
Non,
un français?
Non,
oh mon Dieu,
un
des meilleurs.
Non.
Mais tout le monde, des grands chanteurs de la synagogue, et bien sûr le Klezmer, Dave Terrace, Mickey Katz, les frères Epstein, whatever. Les noms que j'ai jamais entendu parler, ça fait pas partie de l'éducation juive pour nous en Amérique du Nord et probablement pas ici non plus. Et c'est une musique que j'ai jamais entendue sur les ondes de la radio. J'ai jamais entendu ça dans les films, même si Hollywood est contrôlé par les Juifs, mais OK, où sont les histoires juives dans les films Hollywood? Je vois pas. Mm-hmm. Même dans les films de Woody Allen, c'est pas vraiment forcément des histoires yiddish du tout.
Mm-hmm.
Et il n'utilise pas les sons, les sonorités yiddish.
Il
met
jazz,
pas le... C'est le jazz,
oui, c'est
you
le
know?
Jazz, oui.
So, OK. Et j'étais intéressé pour trouver des moments de rupture dans la musique. Breaks. Hip-hop, c'est basé sur the break. Et c'est les moments dans les chansons où l'orchestre arrête pour une mesure ou deux pour faire juste un instrument highlight. C'est highlight.
Mettre de pleine lumière. Quoi.
Oui, alors tout se coupe,
ouais,
sauf que la batterie fait boum,
tu
tchak 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 boum boum tchak tchak tchak
tchak tchak tchak tchak.
Mais avec les ordinateurs et les machines, les sampleurs, qui sont les ordinateurs spécialisés pour le son, comme ça, vous pouvez juste prendre ce petit moment de rupture, boum, tchak 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 tchak, OK? Et avec ça, tu fais louper. Tu
mets des loops.
Enchaîner
des boucles.
Les boucles. Et voilà, tu as une nouvelle chanson. Et avec des layers. What are layers?
Avec des couches.
Des couches. Vous mettez les couches
on
ensemble.
L'un sur l'autre et ça devient.
Et tu mets des couches
musique.
qui vient de n'importe où. Tu prends une couche d'une rythmique de drum des années 70 et tu mets un orchestre enregistré en 2003 et tu mets un truc enregistré en Égypte et un truc enregistré en Afrique et tu peux mettre, tu mélanges, tu changes les tonalités pour mettre dans les bons...
Dans la bonne, dans le bon
in ton, the right key, dans le bon
dans
ton,
la bonne clé sonore,
and enfin. The right speed, la vitesse pour que ça match, que ça
pour que ça match,
pour que ça match. So j'ai pris Aaron Lebedev chez moi en cherchant pour les sons et voilà, j'ai mis l'aiguille,
la pointe de le diamant
et voilà immédiatement. Entre chaque couplet, chaque refrain, il y avait des petits moments orchestrales complètement attirants et rythmiques. Et j'ai commencé de faire sampler ça. Au début, ce n'était pas forcément pour faire une musique qui me représente, blablabla. Bla, bla. C'était juste en cherchant les sons intéressants.
Comme un chercheur.
Comme un chercheur.
Comme un scientifique un peu.
Et juste trouver les bons trucs attirants, moins connus aussi. Je veux trouver des trucs étranges, c'est moins de risques pour être... to get sued. Alors, c'était tous les éléments-là où j'ai commencé de vraiment chercher, finalement, les disques comme ça. Et c'est devenu une manie, une forme de manie, et j'ai commencé de faire collectionner les anciens disques de la musique.
Mais alors...
L'idée, c'est de tout ce répertoire magnifique et de mélanger ça pour créer quelque chose pour aujourd'hui.
Moi, la petite histoire que je connais, c'est que vous envoyez un jour Sokol Tseder à David Krakauer. Mm-hmm. Yo, I know one DJ who turned tables jewel encrusted. He brought the two taggers who were always getting busted. They're part of a crew of three MCs with lyrics unrepeatable. Date four girl breakers with a crew that's unbeatable. I met five producers sly with samples like Fox.
J'ai entendu Klezmatic. Finalement, quand j'ai commencé d'être vraiment impliqué dans l'histoire du monde yiddish, j'ai commencé de checker les trucs modernes, la revivification du
yiddish. Donc oui, tout ce que vous disiez, Zorn, Klezmatic.
Zorn, Klezmatic, Brave Old World, oui. Henry Sapoznik, The Klezmorim, New England Conservatory, Klezmer Band avec Hank Snetsky et Don Byron.
Ah, Don Byron, oui. Bien sûr, oui.
Alors, j'ai... Tôt dans cette histoire, une de mes cousines m'a dit qu'il y a un festival de la culture yiddish à Montréal qui s'appelle Klez Canada.
OK.
OK. À ce point-là, j'étais pas vraiment intéressé
par... Pas encore prêt.
Non, j'étais... I was a cool guy. J'ai aimé les boîtes de nuit et le music house techno et les vrais hip-hop. Un festival de la musique, de la culture yiddish. I was always avoiding real Jewish, like,
ouais.
Community
ah, okay,
stuff.
Ouais.
J'ai trouvé cette culture moi-même. J'ai trouvé dans les poubelles. Et j'étais un peu, ça m'a confirmé un peu le manque de goût dans le monde juif. Chez moi, comme enfant, la musique, c'était pas terrible, la musique juive à la synagogue.
Ah.
C'était pas grand-chose.
Okay.
C'était un homme qui joue l'orgue, un chœur horrible. Et j'étais pas orthodoxe avec cette grande tradition cantoriale où j'étais pas séfarade avec la musique arabe juive qui est encore riche et encore... pratiquer. So, quelques cousins et moi, on a décidé d'y aller
à Klez Canada
pour rencontrer les cousins, pour être ensemble. Et je me suis dit, OK, I'll go, mais je vais apporter une petit enregistreur, a little recording machine.
Et pour, comme ça, je vais enregistrer des choses.
Voilà. Et pour trouver les samples, je vais enregistrer les trucs. OK, cool. Et là, j'ai vu des grands musiciens, des virtuoses qui connaissent les noms que je suis en train de trouver par hasard. Ils connaissent Aaron Lebedev et Leo Fuld. Et aussi, il y avait des vieux. des vieux chanteurs, Minna Byrne, et des vieux musiciens qui sont venus de la culture vivante, yiddish.
Qui était encore alors, vivant.
Un des frères Epstein, oui. Pete Sokolow, une pianiste qui a joué avec Dave Terrace. Les vraies connexions avec les gens avec qui j'ai seulement connecté avec les disques par hasard.
Vous étiez là, à Claes Canada.
Mais là, à Claes Canada, ah oui, je connais Dave Terrace. Wow, OK, dis-moi des grandes histoires et montre-moi comment de jouer le piano klezmer et de jouer l'accordéon klezmer. Et finalement, je suis tombé amoureux avec les mélodies et avec les rythmiques. Et avec...
Une fois que c'était devenu vivant aussi.
Oui, et après un bout de temps, ouais. Je me suis dit, il faut que je chante ce chanson. Il faut que j'apprenne à chanter ce chanson. Je n'étais pas vraiment un chanteur avant ça, mais I don't know why, I heard these old songs. I said, I gotta sing, il faut que je chante ça. Aussi, j'ai entendu beaucoup de monde en chantant les mêmes chansons. Offen Pripetschik, Donna Donna, whatever. Les top 10, you know, le palmarès, OK? Et j'ai des disques chez moi avec des milliers
des
autres chansons. Non.
Ah non, d'autres.
Des autres chansons.
Un
grand répertoire. Alors pourquoi on entend By Mirvis Duchesne encore? Non, il y a des autres grandes chansons. Il faut chanter ça. Alors j'ai dit, OK, I gotta learn. Il faut chanter. C'est devenu une petite mission. Et j'ai commencé d'enregistrer le monde. J'ai enregistré beaucoup une batteuse qui s'appelle Elaine Hoffman-Watts. Tu te souviens Susan Hoffman-Watts, le trompettiste?
Oui.
Elle a joué avec Frank London. Susan, c'est la fille de Elaine qui est batteuse.
D'accord.
Qui a appris de son père, qui était le batteur pour un grand groupe de klezmer des années 20. OK?
OK.
De Philadelphie. Et lui, il était le percussionniste pour l'orchestre de Philadelphia. Alors, un grand musicien, vibraphone, percussion virtuose, qui est venu de Ukraine et qui a joué le klezmer, le vrai klezmer de
là-bas,
Ukraine.
Là-bas, vous l'avez vu jouer à Claes Canada?
Le père, non, mais elle...
Elle, oui.
Oui, et elle a 75 ans, genre. Et elle a appris de son père... Mm-hmm. Et elle est devenue la première femme d'étudier à l'Institut Curtis, c'est une très grande école de musique. Elle était la première femme d'être percussionniste de cette école très, très fameuse. Et elle était musicienne professionnelle. Mm-hmm. Mais cette famille n'a jamais arrêté de jouer le klezmer, le vrai truc. Qui est venue de l'Europe de l'Est. So, j'ai entendu elle en jouant cette rythmique qui s'appelle le bulgare. Et bulgare. Elle a 5 pieds, elle a this tiny woman.
Toute
just
petite.
Played the funkiest beat. C'était le beat le plus funky que j'ai jamais entendu, vraiment. Et je me suis dit, aha, notre musique est vraiment quelque chose.
Funk. There's
est funky stuff. Ouais. Pourquoi on a arrêté de jouer ça? Pourquoi c'est caché? Pourquoi on a oublié cette langue? Pourquoi on danse pas ces danses encore? Ça m'a commencé de vraiment réfléchir et de chercher. Alors, durant l'année, j'ai utilisé les sons que j'ai enregistrés et j'ai commencé de vraiment faire quelque chose avec le rythmique juif, avec les sons juifs, avec un peu de son de David Krakauer qui était là, blablabla. Bla, bla. Et la prochaine année, j'ai présenté ma travail
donc
à David.
Ça. C'était hip-hop racené?
Non, c'était so-called le Seder. C'était la musique.
Ah, c'était so-called Seder.
La musique des Pâques juives.
Ben, la musique de Pessah revisitée par Sokol.
Voilà.
C'était extraordinaire.
Et j'ai donné un petit.
Un disque extraordinaire.
Merci. Et lui, il a entendu et comme il explique des fois, his brain exploded, il a dit. Mais il a pensé, peut-être ça c'est la prochaine étape. This is the next.
C'est la prochaine étape.
Et comme le klezmer était un peu perdu et un peu oublié, c'est difficile de jouer maintenant. Personne vraiment sait comment de le faire. On a fait beaucoup de travail pour reprendre le style, mais c'est difficile, c'est rare des musiciens qui sont vraiment capables de jouer comme il faut. Alors, si tu samples les sons, tu as le vrai style. Voilà, et j'ai donné ça à Krakauer et il m'a invité de venir chez lui à New York pour travailler ensemble. Et c'est commencé une collaboration qui a duré jusqu'à maintenant. Et he took me on tour with him. Et j'ai fait produire ses disques et on a commencé un autre groupe.
C'était quoi votre premier album ensemble?
Mais Bubba Mices.
C'est Bubba Mices.
Mais avant ça, c'était live à Cracovie.
Ah oui.
Et même avant ça, j'étais sur l'album avant ça, juste avec un morceau à la fin.
Album.
Et pour moi, c'était très excitant.
So-called, ça vient d'où? Pardon.
So-called, c'est soi-disant.
Oui.
Et un rappeur avec qui j'ai travaillé comme adolescent. J'étais Heavy J, comme
Heavy
you
J.
know Dr. Dre, Snoop Dogg, tout le monde a leur propre nom.
Bien sûr.
Alors mon nom c'était Heavy J, mais c'était pas vraiment. It was stupid name. And this rapper a commencé de m'appeler Heavy J soi-disant, so-called Heavy J.
Ah.
Et après, au bout de temps, il juste m'appelait Hey so-called, qu'est-ce que tu fais? So
okay.
I got the name like that.
Okay.
So, pour La Belle Bleue, OK, un album vraiment de moi, OK. Alors, je vais inviter les musiciens de jouer sur les beats. Je vais chanter, rapper, les chanteurs, les rappeurs. Et commencer aussi de mélanger les autres cultures. De mélanger le reggae et la musique africaine. Et les invités Roma ou les invités... Oui, et ça, c'était Ghetto Blaster. Et avec mon tube, mon seul tube en France,
You're Never Alone.
These are the good old days, c'était un tube.
C'était bien aussi, hein.
Bien
ça a
aussi,
quand même
mais,
bien marché. Mais surtout, c'était en playlist sur Nova pendant
oui.
deux ans.
Oui, encore, ça joue encore.
Ça se joue encore,
oui.
sur FIP aussi, on
oui.
entend. C'est-à-dire que ce qui se passait à cette époque, c'est que vous, tout le renouveau de la musique klezmer s'entendait sur, en France en tout cas,
mm-hmm.
sur les chaînes nationales,
mm-hmm.
mais pas, sur les, pas du tout, c'était pas connu des juifs et de la communauté
oui.
juive et des médias juifs,
voilà.
du tout. On passait pas ça.
Voilà.
c'était intéressant. Yeah. C'est
Alors,
passé
bah...
vraiment par les médias nationaux.
Voilà.
Et ensuite, c'est arrivé peut-être 10-15 ans après, grâce à certains journalistes, probablement grâce à Jason Klezmer aussi,
mm-hmm.
dans la communauté. Mais vous avez d'abord
mm-hmm.
été,
mm-hmm.
vous avez d'abord touché les gens, les jeunes qui écoutent du hip-hop,
mm-hmm.
en fait. Même si c'est You Are Never Alone. Du coup, les sujets, c'est quoi You Are Never Alone? Parce qu'elle est en anglais, elle est déjà, elle est très yiddish, mais elle est déjà autre chose. Elle raconte quoi la chanson?
Mais la mélodie vient d'une nigun. Un nigun,
c'est une
mélodie sans parole. So, j'ai entendu cette mélodie. Il y avait des paroles, actually. C'est une prière. Sur un ancien disque, et je me suis dit, that's a catchy tune, like, il
ouais,
faut écrire des
tune.
Nouvelles paroles pour ça. J'ai envoyé la mélodie à une chanteuse gospel
ouais.
en Los Angeles,
c'est
qui s'appelle
catchy.
Doris Glaspy,
okay.
Et elle a pris, okay. elle a écrit ses propres mots, et c'est elle qui a écrit « You are never alone ». da 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 da. Elle a fait You Are Never Alone. OK, super, it's called You Are Never Alone. J'ai aussi envoyé la mélodie à Katie Moore,
ouais.
Une chanteuse bluegrass.
Magnifique.
Une chanteuse.
C'est toujours votre chanteuse.
Oui.
Ah oui.
Avec qui je travaille encore.
Ben oui.
De Montréal. Mais une chanteuse country. J'ai vu en chantant dans un groupe de country à Montréal et j'ai dit, waouh, quelle voix.
Like, ouais, elle a une voix.
Je vais mélanger ça avec hip-hop. Ça va être quelque chose. Mais je savais que ça parle de Jewish cowboy parce que j'ai un cowboy juif parce que j'ai trouvé un sample qui parle de Jewish cowboy. J'ai trouvé un sample qui fait cowboy, OK? Alors,
oui, mais c'est vous qui avez fait Jewish cowboy.
Oui, c'était...
C'est vous qui avez inventé. Enfin, vous avez pris deux samples, cowboy, Jewish.
I took the Hasidic and country.
Et vous avez fait Jewish
cowboy. And then I found Jewish cowboy. OK, Jewish cowboy.
And et then, ça passe en boucle sur
et j'ai
Nova,
parlé Jewish à cowboy. Doris et à Katie d'être cowboy un peu perdu dans le... in the West, like alone with your horse and like a country song, but a Jewish country song. And they wrote words, and then a rapper aussi, j'ai expliqué l'histoire, il a écrit ses propres paroles. Et c'est C. Ray's Waltz qui ouais. a travaillé avec nous, avec c'est aussi c'est en c'est Abraham Inc. Et voilà, that's the song.
Ensuite, Abraham Inc.
Alors, Abraham Inc., j'ai joué avec Krakauer pendant presque 10 ans. Et un jour, j'ai entendu, en parlant, le batteur de Krakauer, Klezmer Madness, qui s'appelle Michael Serene. Et il m'a dit, « Hey, tu sais, mon ami Peter travaille avec Fred Wesley. »« Oh oui, ton ami, le clavier, Peter Madsen, il s'appelle. »« Yeah, voilà, check ça, il joue avec Fred Wesley. » Et je me suis dit, « Fred Wesley, il joue encore, il est encore... » Like productif et actif dans le monde. Ah oui, bien sûr, il a son propre groupe, The New JBs.
The New JBs, okay? Oui.
Et mon ami joue avec, et oui, il est là. Et je me suis dit, pour moi, c'est le début de mon histoire. C'était mon amour de funk, The JBs, James Brown. Et
c'est
voilà.
Lui qui faisait, oui. Tous les arrangements.
Quelqu'un me dit que, ah oui, je connais quelqu'un qui travaille avec ton héros, vraiment le top. Pour moi, il n'y a personne. Plus cool que Fred Wesley, peut-être Quincy Jones, et plus, you know, peut-être Michael Jackson, mais il est mort. Mais pour moi, personnellement, il n'y a personne à ce niveau comme Fred Wesley. Pas seulement comme musicien, parce qu'il était le soloiste.
Il était arrangeur aussi.
Oui, il était, mais surtout comme arrangeur, comme l'architecte de funk. Il a créé le son des oui. années 70. Mm-hmm. Et ça, c'est la source de hip-hop. Alors, il est un des vrais parrains, des vraies sources de la culture que I'm a part of, you know?
Bah oui.
He invented it. Il y a les disques de Fred Wesley des années 70 où il parle rythmiquement sur un truc rythmique. C'est le rap. Il a inventé le rap, you know?
Ouais.
Même il y a une chanson où James Brown dit « rap ». Et Fred Wesley parle sur une beat, you know? It's like, c'est okay. vraiment, they invented rap, you know?
Ils ont inventé le rap.
Il y a une connexion directe.
Oui, entre la funk, le rap et Fred Wesley.
Et
voilà. C'était les
et
maîtres,
le hip-hop et Dr.
Dieux.
Dre et Lil Wayne aujourd'hui et, you know, et Kanye West aussi, you know? Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe.
OK, we don't talk about Kanye West.
Non.
OK, so, OK, Fred Wesley, wow. Alors, j'ai dit un jour à Krakauer, yo, pour la prochaine disque, il faut, peut-être qu'on peut inviter Fred Wesley de
venir travailler
de
avec
nous. Faire une collaboration avec nous.
Ouais.
Et Krakauer aussi aime beaucoup le funk. Il vient un peu plus de la monde jazz. Il est fou pour le jazz. Like, il connaît tout. Sidney Bechet, jazz classique, il connaît
oui.
tous les... Si tu écoutes quelque chose, un track de Sidney Bechet...
Il te dit quel album.
45, il peut dire, ah oui,
l'année,
ça c'est
blablabla. Bla, bla.
Oui, il peut dire qui joue le vibraphone. Oui, oh. He's a nerd, super nerd. OK? Et OK, Fred Wesley, ah oui, ça peut être cool. Enfin, on a trouvé qu'on a le même publisher.
Le même en Europe. Éditeur.
OK. Les mêmes Alors, éditions. On a trouvé son contact et on a approché Fred Wesley. On a dit, est-ce que tu peux être intéressé d'explorer la musique de Klezmer, la musique des Juifs, des
là, instrumentales
des années, you know, de l'Europe de l'Est? Et Fred Wesley a dit, what? Mais enfin, on s'est rencontrés, c'est bien passé. On a commencé une collaboration qui existe jusqu'à aujourd'hui.
Abraming 2, c'est ça?
On a fait deux albums, mais aussi Fred a joué sur tous mes albums. Et Fred a écrit... Maintenant, je fais des comédies musicales.
Merci. Okay. Je voulais y arriver aussi, okay. Mais...
Parce que y a au la début, magie, j'étais producteur de hip-hop. J'étais le mec avec une machine de boucle où je fais des trucs. Mais j'ai commencé de chanter en yiddish. J'ai commencé de jouer le piano. J'ai commencé de jouer l'accordéon. J'ai commencé d'être chanteur dans les groupes, d'être pianiste dans les groupes. J'ai commencé d'écrire des morceaux. D'écrire des chansons. J'ai tombé sur des autres trucs comme collectionneur des anciens disques. J'ai commencé de tomber sur la musique Broadway, sur Kurt Weill, sur le compositeur Kurt Weill. Alors, j'ai été influencé par beaucoup de musique, finalement. Et je veux participer dans beaucoup de musique. Ah, j'ai travaillé avec Gonzalez, solo piano. Alors, j'ai pensé, OK, solo piano, et OK, et quatuor de cordes, OK. Et j'ai commencé d'être dirigeant.
D'être directeur, enfin, non, chef d'orchestre.
Chef d'orchestre pour les chœurs. Chef de chœur. Alors, j'ai commencé de collectionner des anciennes partitions. Alors, j'ai devenu pas mal... A better reader. I could read music. I learned how to read music well.
Ah, vous avez enfin appris à lire la musique.
I learned how to write music. So, j'ai fait la première comédie musicale. Quelqu'un m'a aimé. Quelqu'un, un théâtre, a vu ça. Et il m'a invité de faire une autre comédie musicale pour le théâtre yiddish à Montréal, qui s'appelle Dora Wasserman Yiddish Theater, qui existe encore, un théâtre yiddish. Et il m'a invité de faire une comédie musicale en yiddish. OK, oui.
Vous l'avez faite.
Je veux faire. Mais il faut que ça doit être une histoire yiddish. Alors, j'ai réfléchi, qu'est-ce que on peut présenter? Parce que ça va être dans une langue que personne ne parle. Alors, si ça va être dans cette langue, il faut être dans cette langue pour une raison. Il ne faut pas faire Rambo.
En yiddish.
Il ne faut pas faire...
Non,
you know what I mean? It's got to be a yiddish story. So, j'ai pensé à des contes d'Odessa de Isaac Babel, le grand écrivain soviétique juif d'Odessa.
D'Ukraine, oui.
Ukraine. Et ces histoires, ces contes de la musique, de la vie underworld, criminelle, gangsters, Jewish gangsters in Odessa. OK, cool. Comédie musicale pour ça. Un peu Fiddler on the Roof, mais à l'envers.
Le violon sur le toit à l'envers. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le bad guy.
Oui.
C'est le gangster d'Odessa.
Voilà.
Et
c'est des contes
de mafia juive d'Odessa.
Imaginez.
En yiddish.
Et Enrico Macias. Alors,
merci.
Je suis tombé à Québec. Tu trouves les disques d'Enrico Macias dans les armées de salut. Everywhere. He sold a lot of records.
Oui.
Et à Québec, il est encore très connu.
En France aussi, toujours.
Mais oui. Moi, comme Canadien, j'étais pas... I'd never heard of Enrico Macias. Ça fait pas partie de ma culture, ni français, ni pieds noirs, algériens, séfarades, andalouses, les trucs comme ça. No idea. But j'ai pas mal de disques d'Enrico Macias que j'ai... collectionné juste parce que, OK, la couverture, le jacket,
what do you call it? Non, la pochette.
La pochette.
La couverture ou la pochette, ça marche.
La pochette, Enrico Macias, OK, c'est quoi ça? 25 sous, OK, je prends. Après un bout de temps, j'ai trouvé qu'il était juif d'Algérie, OK, cette histoire. Then I looked J'ai cherché de son histoire formidable, son histoire hallucinante de son père avec le Cheikh Raymond, avec la fille de Cheikh Raymond, sa femme. Wow, OK. Et un jour, avec Ghetto Blaster, le fils d'Enrico Macias a fait contacter mon label, ou my publishing, EMI.
Mon éditeur aussi, ouais.
Mon éditeur, pour parler de You're Never Alone. Il a entendu le morceau, il a aimé, il a dit, c'est intéressant, il prend quelque chose de la culture juive, mais il essaie de mettre ça pour aujourd'hui.
Au bout du jour actuel, ouais.
Voilà. Alors, on s'est rencontrés. Et il m'a dit, oui, on veut bien travailler avec toi. OK, Enrico Macias. OK, super cool.
Donc, c'est lui qui est venu vous chercher.
Oui. Et honnêtement, entre nous, j'ai fait un morceau qui s'appelle UNLVD, OK?
Oui.
Avec Enrico Macias. Et c'était pour mon album après Ghetto Blaster.
Et moi, je n'ouvrais plus les yeux. Reviens encore une fois.
Et je me suis dit, OK, j'ai vu que c'est marché avec You Are Never Alone. Une mélodie attirant, hip-hop, rap. OK, je vais faire même plus. Je vais demander à Enrico Macias, un grand star français, de chanter sur ça. Et ça va exploser. Ça va être même plus. Maintenant, ils me connaissent. You Are Never Alone. Ils jouaient en boucle sur Radio Nova. C'était
fou.
OK? Ouais. OK, je vais faire quelque chose pour France maintenant. Enrico Macias, même, but the same...
La même magie, la même cuisine, en fait.
Yeah, the same recipe.
La même recette.
Voilà. J'ai fait. Je pense que c'est pas mal comme morceau. Le mélodie est kick-ass. Le rap est kick-ass. There's a good beat. C'est bon. Silence. Et c'est triste parce que je pense que c'est un truc politique avec l'histoire d'Enrico Macias et son amitié avec l'ancien président français.
Ah, Sarkozy.
Sarkozy. Ah. Et avec peut-être ses politiques d'Israël. Radio Nova n'a pas joué du tout. Et c'était fini pour moi en France, vraiment. Et I went to Radio Nova quelquefois, on a écouté le truc. Listen, it's just as good.
It's better.
This could be good. Mais pour moi, le truc drôle de prendre la voix de Enrico Macias, c'est une voix un peu, you know, des années 70, des années 80. Pour moi, c'est fun de mélanger ça avec quelque chose de nouveau.
Ouais.
Mais après ça,
après, vous avez
demandé,
fait un album pour lui.
Voilà.
Les oranges amères.
Après, il m'a demandé de faire produire un disque avec lui. Alors, on a fait Voyage d'une mélodie.
Un voyage d'une mélodie.
Et c'est tout un album où j'ai essayé de mélanger des trucs. Et même Enrico chante en yiddish.
Oui.
Théodore Bickel et Enrico faire
un duo
ensemble où il chante. J'ai même fait une version où Théodore Bickel chante en français. On n'a pas utilisé sur l'album.
Et
où Enrico
en
chante en yiddish.
Oui, c'est extraordinaire.
Mais c'était une grande aventure, juste de travailler avec lui. Il est un grand musicien. Il est très sympa. Il est gentil. Il est ouvert. Et quand vous pouvez juste communiquer avec la musique, c'est dingue avec lui. C'était un grand honneur de travailler avec lui.
J'ai une petite dernière question. Vous n'avez pas fini de questionner et de triturer et de revisiter la culture et la langue yiddish.
La semaine passée, j'étais en concert pour le festival Jazz et Klezmer à Paris avec toi.
Ah oui!
À cause de toi.
Ouais, merci.
Mais pour ce festival et cette présentation, j'étais solo à la piano. Alors maintenant, je chante, je suis chanteur de yiddish maintenant. J'apprends encore les chansons de yiddish et maintenant je suis revenu à la tradition. J'étais le iconoclaste.
Et là, vous êtes en train de revenir aux sources.
Voilà,
et donc...
et pour Et pour... J'ai commencé avec les anciens disques pour chercher les sons, mais je suis tombé amoureux avec les chanteurs, avec les mélodies, avec le style des chansons yiddish. Et je suis devenu un des chanteurs de yiddish dans le monde. OK, je vais continuer. Toi aussi, merci pour l'intérêt. Merci,
merci
à vous.
Josh.
Merci toute la gang. Merci, Isaac. Merci, merci. Academ. À la prochaine.
Bye-bye. Woo! Thank you.
Thank you. L'chaim.
L'chaim.